La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Philippe Mercher, Célia Dufour, Régis Nicolas, réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Thierry Chaise, Antoine Guillot, pour parler ensemble des Rives du Destin d'Abdelreza Karani, Une année polaire de Samuel Collardet, l'exposition Chris Marker à la Cinémathèque française. Boris Pinault est là qui surveille les fils Twitter et Facebook pour venir entendre vos commentaires sur notre sommaire. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour les expositions du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, qui fête ses 30 ans avec une double exposition. Forme de vie de Valérie Jouve et Face à l'obscurité, Jean-Michel Autoniel. Deux expositions à découvrir jusqu'au 16 septembre. Nous ouvrons cette dispute avec un film iranien sur les Rives du Destin, réalisé par Abdelreza Karani, installé en France depuis quelques années. Il y a tourné On a le temps, sorti en 2012, que je n'ai pas vu. Je l'avoue, les autres films du cinéaste n'ont, je crois, pas été distribués dans l'Hexagone. Sur les Rives du Destin, lui, est sorti en Iran en 2015. Il nous arrive aujourd'hui, c'est le 8e long métrage de ce cinéaste. Le film débute par l'arrivée à Téhéran de Samira, quelques mois après son divorce. Elle est avec sa fille, mais l'attend son ex-mari qui ne supporte pas le retour beaucoup trop prématuré, selon lui, de Samira dans la ville. Il lui arrache d'ailleurs leur enfant, mais la jeune femme est déterminée à rester dans la capitale iranienne et à construire une vie de femme indépendante.
هنوز 6 ماه نشده دست بچه رو گرفته تهران. ما که مردیم چیکار میکنیم تهران که تو هم بیای؟ اونم با بچه. بابا من راضی نیستم. به چه زبونی باید بگم بهش بفهمه صابر؟ از هیچی هم نمیترسم. مرد نیستم اگه بذارم اینجا بمونه صابر.
همش از صبح دارم جاش راضی میکنم این رفته با اون میاد بعد میگه ما با
بسه!
Qu'on comprenne ou pas cette langue, on aura compris qu'il y a quelques énervements dans ce film sur les Rives du Destin. On va apprendre aussi, on va faire une petite leçon de turc que j'ai essayé de suivre. Antoine Guillot, entre l'écriture patte de mouche lisible et la tablette intelligente, vraiment un grand écart pour commencer à parler de ce film.
Voilà, vous avez toute l'histoire de la technologie rassemblée sur cette table.
Bon, enfin, vous n'êtes pas encore en train de graver des pierres.
Non, bon. C'est vrai, j'ai commencé un peu plus tard. Alors, comme vous, je ne connaissais pas ce Abdelreza Karani, qui a fait 8 films, mais vous l'avez dit, qui habite en France en plus maintenant. Donc, je suis assez surpris de découvrir... voilà, ce cinéma-là. En même temps, quand je vois le film, je comprends peut-être pourquoi on n'en a pas vu d'autres. C'est un drôle de film qui est à la fois très intéressant parce qu'il montre, parce qu'on y voit des choses que je n'ai jamais vues dans le cinéma iranien. Par exemple, des personnes en train de fumer un joint de hashish. Autant que je sache, ça n'a jamais été montré aussi frontalement, en tout cas une longue scène comme ça où on fume, on rigole et on parle de parasitisme social et d'immigration au Canada tout en rigolant beaucoup. Je trouve d'ailleurs que c'est l'aspect le plus intéressant du film, c'est ce Téhéran de la marge, des petits trafics, des trafics notamment de décodeurs pour satellites qui sont pas franchement autorisés là-bas. Ces petits trafics qu'on va écrire « Made in China » pour donner l'impression que c'est de la qualité et pour faire vendre une usine de fabrication de toilettes, par exemple. J'en avais jamais vu encore dans le cinéma iranien. Alors voilà, c'est l'aspect un peu intéressant. Après, le problème, c'est que le film est tellement mal foutu dans sa façon même de raconter, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul cadrage possible, qui est le plan américain, quelle que soit la situation montrée. Donc quand on montre un match de foot, par exemple, c'est assez embêtant, même si c'est intéressant de voir, il a une grande fascination pour l'homme torse nu. Alors il y a l'homme torse nu dans la douche, filmé en plan américain, comme ça on voit rien. L'homme torse nu jouant au football, un peu gras, un peu adipeux, mais on comprend rien à ce qui se passe, parce que c'est filmé en plan américain, donc on voit pas de balles. Et ça donne cet enfermement constant à cause du plan quand même relativement rapproché, trouve à un moment son utilité quand on ne voit pas surgir une moto. Il y a beaucoup de motos dans les rues de Téhéran, et qu'il va se passer un événement que je ne vais pas dévoiler ici, mais qui peut créer une certaine paranoïa derrière. Mais après, je comprends même pas comment c'est monté, comment les séquences s'enchaînent les unes les autres. Tout semble très forcé. Il y a des scènes de dispute. D'ailleurs, vous n'avez pas dit l'exact début du film avant même l'arrivée. Il y a une petite séquence qui nous explique que tout ça ne va pas très bien se terminer. Je vais pas le dire. Mais avant même ça, il y a un panneau demandé par la censure iranienne qui explique que deux personnes qui jouent un couple peuvent le faire et peuvent se toucher, notamment
avoir des contacts physiques,
parce qu'ils sont mari et femme dans la vie. Et en effet, dans les grandes règles du ministère de la Culture et de la Guidance islamique, puisque c'est un panneau de ce ministère-là, si vous n'êtes pas mari et femme, vous ne pouvez pas jouer mari et femme, ou en tout cas avoir un contact physique dedans. Donc voilà, ceci précisé. On voit les fameuses scènes de mari et femme, qui sont des scènes de dispute extrêmement artificielles. On a l'impression qu'elles arrivent là parce qu'il faut il faut que ça soit le jeu des comédiens. Et pourtant, il y a une très très bonne comédienne qui joue, qui est Taraneh Ali Dosti, qu'on a vu beaucoup dans les films de Faraday notamment, où elle était formidable. Mais là, elle a l'air complètement terne, comme l'image qui est à la fois pâteuse et terne. Donc c'est un film.
Une très belle photo, moi.
Alors non, moi j'ai trouvé.
Vous parlez des plans américains. Il y a quelques travelling très élégants. Enfin,
oui, il y a quelque chose bien dans ce film qui globalement est mal foutu.
Bon, vous n'avez pas l'air d'accord, Corinne Rondeau.
Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que. Alors, bon.
Par où on commence ?
Qu'avez-vous dit, en fait, Antoine ?
Vous êtes d'accord avec rien de ce que dit Antoine ?
Non,
Guillaume.
Enfin, je me souviens plus. Si, un peu, mais pas tout à fait, non. Non, je trouve pas du tout que le film soit pâteux et qu'il y ait que des plans, comme vous dites, américains. Je trouve que ce film est effectivement, contrairement à ce qu'on connaît du cinéma iranien, est assez inattendu. Et il est inattendu parce qu'il ne peut pas. Je veux dire, la censure, le ministère de la Culture iranienne l'empêche de diffuser ses films à l'étranger. Bon, pas de bol, c'est sur lui que ça tombe. Donc là, il a eu la possibilité d'avoir l'autorisation à cause, justement, ce carton nous indique. Et là, bon. Mais quand, par exemple, vous dites, petit trafic pour un décodeur de télévision, qui est quand même la manière de se connecter au monde, faut pas le négliger, et en même temps une usine de toilettes, c'est aussi des signes qui peuvent passer, je dirais, comme ça pour une censure, mais qui, par ailleurs, peuvent dire aussi des choses. Puisque ce film, c'est effectivement la volonté d'une femme de s'émanciper d'une société traditionnelle iranienne, et elle revient donc, comme vous l'avez dit, à Téhéran après son divorce, et évidemment les choses ne vont pas se passer comme elle le souhaite. Et évidemment, on peut faire de ce film, je dirais, un discours sociologique, c'est-à-dire les femmes qui divorcent en Iran, c'est l'enfer pour elles. Voilà. Alors, on est quand même confronté à un film. Voilà. Donc, je trouve que quelqu'un qui a été censuré tant de fois dans sa vie, 8 films je crois, qui arrive sur nos écrans, un film qui est assez court, hein, je crois qu'il fait 1h20, 1h15, qui nous donne une autre patte, justement pour renverser votre mot de pâteux, sur un cinéma iranien, sur un contexte, parce que les Iraniens, les réalisateurs iraniens filment beaucoup les femmes, ils filment beaucoup la difficulté d'émancipation et de liberté des femmes, et que là on est au point nodal. C'est-à-dire, on arrive. Alors, il y a un prologue au film, je ne vais pas le dire, puisqu'en fait, le début et la fin, quoi, grosso modo. Mais on assiste à une engueulade dans un hall de gare. C'est-à-dire, le mari arrive, il va arracher sa fille, qu'elle vient de ramener à Téhéran, pour la ramener en province, chez sa belle-sœur, à lui, c'est-à-dire la sœur de son épouse. Et ensuite, cette femme va vouloir, coûte que coûte, aller chez des amis, enfin des amis qui vont la prendre sous leur... Enfin, justement, des hommes qui vont la prendre sous leur aile, et donc ils vont pouvoir l'aider. Et donc, elle va essayer de rentrer à nouveau dans la société pour ne pas être persécutée en province, parce que c'est pire, la province est pire que dans une grande ville. Donc, vouloir revivre dans un lieu d'urbanisme et d'urbanisation dans lequel il y a une possibilité de vie, je veux dire, c'est tout l'enjeu de ce film, que moi j'ai trouvé par ailleurs
inattendu parce que je l'ai trouvé drôle. Il a un côté assez
burlesque.
Burlesque. Burlesque, j'ai trouvé. Je ne me suis pas du tout attendue. J'étais pas du tout dans la perspective du cinéma iranien qui d'habitude me met dans des dialogues, une beauté. Et là, il y a vraiment un film dont le montage est assez vif au niveau du montage. Et effectivement, il y a ces scènes que je trouve pas du tout jouées, moi, des engueulades, parce que de toute façon, la question de l'engueulade ou de la discussion des uns et des autres me paraît avoir été saisie à l'endroit où, sans doute, j'ai, moi, mon imaginaire dans la culture orientale. C'est-à-dire, voilà, la frontalité, le côté d'un coup, tout comme une dispute. C'est-à-dire, ça peut se déclencher comme un éclair, comme une foudre. Et moi, j'ai plutôt apprécié ce moment-là, quoi. Ces moments-là, plutôt.
Alors, avant quelques réponses, Antoine Guillaume, on n'a pas encore entendu Thierry Chaise parler des rives du destin.
Moi, j'ai plutôt fonctionné aussi avec cette figure du mari, qui justement, l'ex-mari, le fait de ces plans américains, qui fait qu'à un moment, on entend d'abord par la voix, j'ai l'impression de quelqu'un qui fait surgir à tout moment, hurlant, et enfin, c'est des cris qui rendent presque le film insupportable et qui nous mettent vraiment, je trouve, dans la peau de cette femme. Et l'avantage de ce film, c'est qu'il y a justement 1000 films en un. Alors oui, je suis un peu d'accord avec Antoine Guillot, le montage parfois fait qu'on est perdu, mais au moins il y a plein de choses. Il y a évidemment cette femme, sachant que pourquoi elle doit travailler autant, c'est que lorsqu'on divorce, il y a tout ce qu'on dit, c'est l'enfer pour une femme en Iran, et parmi l'enfer, c'est qu'elle ne touche pas évidemment de portion alimentaire, que c'est l'ex-mari, en tous les cas, qui a tous les droits sur ce fils. On avait vu dans Naïd, de Ida Panahandé, par exemple, déjà traité ça. Donc, il y a ça. Donc, du coup, elle doit travailler. Et ce qui amène le film vers donc, cette description des classes pauvres de Téhéran, que je trouve, alors là, absolument passionnant. Mais il y a toujours cette femme qui est là, puisqu'il y a toujours ce mari qui n'est pas loin. Et, à l'intérieur de tout ça, lorsqu'elle va se réfugier chez un couple d'amis, il va y avoir aussi la jalousie de la femme. Par rapport à cette femme-là, la jolie, c'est la femme du couple. Et donc, on va avoir d'un seul coup quelque chose qui emmène encore le film ailleurs. Et c'est cette manière, justement, de tisser toute cette histoire, parfois maladroitement, moi, je trouve, qui débute par ce prologue que moi, je trouve vraiment inutile et qui me casse quelque chose, mais je trouve que il y a
non, on fait Corinne Rondeau
moi
je
si mais ça me gêne mais ça me gêne beaucoup, j'ai l'impression que là c'est souvent ça dans les films américains et où ça me gêne, et là ça me gêne vraiment tout autant. Mais tout au long du film, moi, j'ai été tenu par justement ce parti pris de ces plans-là, par cette figure de l'ex-mari qui est là, par le combat de cette femme. Je trouve que ça n'est pas juste un film plaidoyer de quelque chose et qu'on devrait aimer parce qu'il défend quelque chose, mais parce qu'il le fait de manière, avec un parti pris et de manière, je trouve, plutôt intelligente.
Alors, moi, je redis pour commencer que je trouve qu'il y a une très belle photo, une très belle image. Hein, pardon, Antoine Guillot. Enfin, voilà,
Il y en a pour tout le monde.
Avec quelques rares, mais très beaux travelling. Très, très élégant, assez inattendu, parce que c'est juste pour voir rentrer une moto dans une cour. Enfin, ce sont des choses assez simples, mais tout d'un coup, il y a une beauté formelle à laquelle moi, je n'ai pas été insensible. Alors, effectivement, sur le récit, sur la question du montage, c'est vrai que ça peut paraître chaotique, mais c'est un film qui avance, quoi, qui va vite, qui a beaucoup de niveaux de narration, qui effectivement, avec des scènes que moi j'ai trouvées très drôles, la scène de la fumette fait penser à la scène du film de Xavier Beauvois, N'oublie pas que tu vas mourir, avec Beauvois et Roche Dizem, qui, alors ils prennent pas la même drogue, c'est pas tout à fait les mêmes effets, mais il y a quelque chose d'une forme de réel qui est très, très étonnante, et avec tous les fantasmes sur le Konodo, ce qu'ils répètent sans arrêt Konodo, hein, on prononce un peu comme ça, visiblement, parce que c'est là qu'ils veulent aller, c'est l'horizon chimérique de ces gens-là. Mais voilà, ce film qui avance en tout cas et qui nous fait voir en effet de choses extrêmement sérieuses, parce que vous dites elle vient pour travailler, enfin elle vient pour monter une arnaque, hein. Enfin, oui. c'est quand même ça aussi que ça raconte, comment on peut s'en sortir, ben, en essayant d'arnaquer les autres qui ne sont pas mieux lotis que nous, mais bon, si on a trouvé la combine, et il y a quelque chose de très très concret aussi, hein. Parce que c'est des codeurs, il faut en trouver, et puis après il faut les conditionner. Enfin, il y a quelque chose de il faut le faire très concrètement. Il faut remplir des coffres de voiture, il faut décharger les coffres de voiture, il faut planquer les choses. Enfin, il y a beaucoup de choses très concrètes. Et donc, moi, je suis assez étonné qu'en fait, en 1h15, même si je ne tiens pas le film pour un chef-d'œuvre absolu, ils réussissent à mettre autant de choses dedans. Alors, je me demande quel a été le parcours entre la sortie iranienne 2015 et l'arrivée sur les écrans aujourd'hui. Comment ça se fait? Vous avez dit que Corinne Rondeau a été souvent censurée, y compris dans son propre pays. Il y a des films qui ont mis très longtemps à sortir, d'autres qui ne sont jamais sortis, d'autres qui ont été interdits à l'exportation. Celui-là nous arrive. Bon, c'est une coproduction franco-iranienne, ai-je lu. Donc, il y a peut-être des accords que le gouvernement iranien n'a pas pu, contourner.
Non, mais d'autant que pour celui-là, il a eu toutes les autorisations nécessaires. C'est-à-dire qu'il l'a tourné. Il habitait déjà en France.
Si on est censeur iranien et qu'on voit le film,
il est passé par toutes les étapes. Et justement, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit, en fait, je serais curieux de voir les films censurés précisément parce que j'ai le sentiment ici. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a ce sentiment de mal foutu, comme je le disais au départ, et des problèmes de montage, des choses comme ça. Il est possible qu'il y ait certains plans qui étaient coupés pour complaire à la censure et pour pouvoir passer. Et peut-être certaines séquences, même entières, parce que on sent qu'il y a, ce matériau que vous décrivez, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur ce... Sur ce terrain un peu interlope. Enfin, il y a des personnages. Il y a le personnage du patron de l'usine qui est très efféminé. Il y a tout un discours sur l'homosexualité aussi, sur cette façon de se dire, tiens, pour passer au Canada, je vais faire croire que je suis gay, parce que comme ça, je peux passer pour un réfugié pour raison de mœurs. Et il y a tout ça qui est certainement dedans quelque part dans le film. Et alors peut-être que ces fameux films censurés, ce sont des films où il a pu s'exprimer plus librement, peut-être au risque de la censure précisément, et que quelque chose de plus fort sortait. En effet, on ne peut pas défendre le film uniquement à cause du sujet, parce qu'on en a vu énormément de ces films qui défendent. Et on place aussi... On ne connaîtrait pas trop le cinéma iranien, sans doute que j'aurais trouvé celui-ci formidable. Mais il y a tellement d'excellents réalisateurs iraniens et qui font avec les questions de censure sans arrêt, et dont on voit des films en France qui ne sont jamais sortis en Iran, que la barre est quand même assez haute pour qu'on puisse prévenir l'auditeur que... Certes, le film est intéressant, mais ne vous attendez pas à la découverte de grands cinéastes iraniens, comme on en a vu et comme on en connaît beaucoup, qui ont tous déjà abordé les mêmes sujets.
Oui, mais comme vous le disiez, Abdollah Reza Kahani, il montre des choses que les autres n'ont pas montrées. Donc, ne serait-ce que pour ça, le film vaut absolument d'être vu. Alors, j'ai été surpris, le patron d'usine est féminé. Moi, je le trouve dans une forme d'élégance à l'ancienne. Hein. C'est plutôt l'époque du Shah d'Iran. C'est pas parce qu'on a une belle moustache et un fume-cigarette... Vous voyez ce que je veux
on
dire
peut le prendre... Non, mais on peut prendre le film comme...
J'ai l'impression que c'est l'ancienne aristocratie là, qui continue à exister, qui malgré tout, c'est lui le patron d'usine, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a le cash. Et on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui a perduré du régime du Shah dans la République islamique. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Corinne Rondeau
Oui. Oui.
Non,
si, mais moi je trouve, je veux dire, la critique est relative, donc on n'est pas là pour dire c'est des chefs-d'œuvre ou pas. Enfin, vous voyez, parfois ça nous arrive. Bon, mais non, je trouve qu'effectivement ce film est inattendu en termes de film iranien. Donc je pense que ça vaut la peine aussi d'aller le voir, et ça vaut la peine d'aller le voir simplement pour une chose, et c'est la raison pour laquelle je n'étais pas d'accord avec Thierry, c'est-à-dire que le prologue, moi, me dit quelque chose par rapport à la fin du film. Et elle dit quelque chose, cette femme, dans le film, au moment où elle sent que l'arnaque qu'elle monte n'aura pas lieu. Et c'est le seul moment qui est dramatique, parce qu'à aucun moment le film est dramatique. En général, le cinéma iranien, c'est quand même... Ça nous met les larmes aux yeux, ça nous serre la gorge parce que c'est beau et tout. Et là, d'un coup, justement, quand il y a cette cavalcade et cette castagne dans la fabrique des frères, là, c'est formidable. Moi, j'ai trouvé cette scène assez formidable. Elle est inattendue. Et c'est pas un cinéma iranien. Je trouve que, justement, il y a quelque chose, je pense, du réalisateur dans son interdiction, dans sa censure, qui se joue à l'intérieur de cette volonté de trouver une solution à tout prix. Et il trouve une solution. Alors, évidemment, cette solution, elle est terrible. Elle est terrible pour son héroïne. Mais elle est terrible, mais en même temps, et c'est pour ça que je suis pas d'accord, parce que ce que vous voyez au début, ce n'est pas du tout ce qu'il montre à la fin. Et donc, cette femme... Ce qui lui arrive, c'est la liberté qu'elle choisit. Et c'est la seule qui lui est autorisée en Iran. Donc maintenant, vous pourrez aller voir le film.
Pas mieux, Thierry Chaise ?
Non, moi, malgré tout, je suis gêné. Et dans d'autres cas, ça m'arrive aussi. C'est pas dans les plein de films américains, on voit les scènes du début et les scènes de la fin qui ne disent pas les mêmes choses, mais je trouve ça toujours gênant. Moi, je vois presque un autoportrait, en fait, de... C'est presque un autoportrait du cinéaste. Finalement, ce cinéaste, c'est cette femme qui essaye de lutter contre son indépendance et par des petits trafics et des petites choses. Et peut-être que, justement, c'est aussi un portrait de lui, galérant pour essayer de faire le film qu'il souhaiterait faire, avec des petites arnaques qui nous sautent aux yeux en disant « Ah tiens, ce montage ne fonctionne pas ». Et finalement, ça peut être un joli parallèle du combat de cette femme plus dramatique le sien, parce que finalement aussi, au bout du compte, le film sort malgré tout en France et on peut le voir. Voilà.
On peut voir Les Rives du Destin d'Abdelreza Karani qui est sorti en effet mercredi dernier dans les salles françaises. À suivre la dispute Une année polaire et Chris Marker, tout ça au Bel Air.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au cinéma, en public du Bel Air, donc le bar de la maison de la radio, avec le nouveau film de Samuel Collardet, un cinéaste dont on suit le parcours avec intérêt depuis son premier long métrage, c'était il y a 10 ans, L'Apprenti, auquel ont succédé les non moins intéressants et beaux Comme un lion et Tempête. Et comme dans ses précédents films, le cinéaste brouille une fois encore les repères entre fiction et documentaire en suivant cette fois-ci un instituteur danois qui part enseigner au Groenland, je ne prononcerai pas le nom de la ville, c'était enfin la ville du hameau de 80 habitants, des Inuits. Il va falloir une certaine patience, une certaine empathie pour intégrer cette communauté.
Du har jo overhovedet ikke nogen undervisningserfaring, vel?
Ikke rigtig.
Hvorfor Grønland?
Jeg har ingen børn, jeg har ikke noget, der binder mig. Så er det nu eller aldrig for at komme på sådan et eventyr.
Velkommen så til den nye hjem, i det hele taget til Grønland.
Jeg hedder Anders Hvidegård.
I skolen, altså børnene, de er håbløse.
Hvad så? Vil du stadig gerne spille i Danmark, eller?
Corinne Rondeau, c'est à vous. Finissez de boire votre verre d'eau pour nous parler d'une année polaire de Samuel Collardet.
Alors,
par quoi on commence? Un peu de groenlandais, peut-être.
Kruk, tic-tac.
Non, ça, c'est du danois.
Ah, pardon. Ah ben, il est danois, ce jeune...
Oui, je vous ai demandé du groenlandais. Alors, parce que le Groenland, c'est une partie du Danemark.
Absolument, c'est une colonie.
Oui.
La partie de colonie, c'est... Bon, bref. Alors, donc ce film joue là-dessus.
J'ai pas tout entendu, mais...
Oui, j'ai tout dit dans le micro, pourtant, hein, donc j'ai rien caché.
Bon, je réécouterai l'émission.
Ouais.
Il faut que je m'abonne au podcast.
Oui, sans doute, comme moi. Donc ce film, voilà, bon, il est dans la veine, des films de
Samuel Collardet.
Voilà.
Je peux finir les phrases si vous voulez.
On va faire ça, je pense. Alors pour moi, c'est de la fiction documentée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va travailler, parce que ce qui est très étonnant quand on voit le film, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est vrai, c'est pas vrai. Alors vraiment, la dimension fiction est très très forte. Et puis il y a des choses qui vous disent. Ça frôle avec un peu de documentaire, mais pas tout à fait. Donc effectivement, cette volonté de travailler pendant un an, voire plus, dans le lieu où il va filmer, avoir des relations humaines avec tous ces gens-là, lui permet d'écrire. Et évidemment, ça donne ce que moi, c'est pas un docu-fiction, c'est pas une fiction docu. Mais pour moi, c'est de la fiction documentée. C'est-à-dire qu'il y a du réel qui est mis en scène. Et ça, c'est très étonnant sur. Alors, après, sur le film, c'est très étonnant parce que ça tient vraiment. Il arrive à faire tenir son film sur 1h38, je crois. Par contre, effectivement, j'ai eu, moi, beaucoup de mal avec un certain nombre de moments qui sont... Je trouve que le film est un peu déséquilibré. Par exemple, donc on a toute la partie avant le Groenland. Donc, il choisit de partir auprès du ministère de l'Éducation. On lui dit laquelle. Il dit la plus petite, 80 habitants, côte est du Groenland, à Tinit Ekklik. Je ne sais plus comment ça se
prononce. Vous le dites bien.
Voilà. Et avant qu'il parte, il voit sa famille. Par exemple, cette scène avec la famille est soit inutile, soit il aurait fallu la faire plus longue. Et il y a des moments comme ça dans le film où il y a un petit déséquilibre de timing, on va dire, sur les scènes. Et puis, bon, voilà, il y a ça. Moi, ça m'a un peu gênée. La chose que je relèverais de ce film et son intérêt principal pour moi, c'est tout ce qui va arriver, notamment avec l'arrivée de ce jeune instituteur, se joue avec le problème de la langue, puisqu'en fait, les Groenlandais, en plus sur la côte est, ils parlent un dialecte qui n'est pas le Groenlandais national.
Les 5000 autres.
Voilà. Et le danois. Et donc on voit là ce que déjà, c'est la question du langage qui ne s'opère pas, dans la mesure même où le cinéaste a martelé, je dirais, cette dimension du langage, puisque lorsqu'il se trouve au ministère, il dit bah, vivement que j'apprenne la langue du Groenland, et la responsable ou la directrice lui dit « Ah non, non, surtout ne faites pas ça ». Moi, j'y ai vécu 20 ans et je n'ai pas appris un mot de gros. Et là, on se dit OK. Donc, on se dit OK parce que ça veut dire que la question, c'est toujours territorialisée avec une certaine langue. En plus, c'est l'éducation. Donc, c'est une manière d'impliquer, je dirais, une certaine norme.
D'imposer
cette norme. Et tout le film, justement, joue avec le rapport de la transmission, de voir comment une nouvelle forme d'initiation et de transmission pourra avoir lieu lorsque l'instituteur lui-même a à cause de ce langage, mais aussi à cause de cette norme qu'il ne peut pas instaurer, va se déliter parce qu'il va faire le choix d'être du côté de l'autre langue, c'est-à-dire des traditions, voilà. Et bon, ça c'est intéressant, on va dire. Après, je trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faibles. Il y a une complexité de la vie de ces Inuits, et évidemment, c'est passé. Donc, je pense que c'est un film qui est fait pour les Occidentaux. C'est pas un film vers les Inuits, mais parce qu'à cause de la complexité sociologique, anthropologique, qui est pas tout à fait marquée, mais parce que il va être sur des éléments, et ça c'est très intéressant, factuel, gestuel, c'est-à-dire la pêche, découper un phoque, manger le phoque, etc. Ça, c'est intéressant, mais je trouve que ça fait un peu nature et découverte. Regardez comme la... Ah ouais, moi, ça m'a un peu agacé quand même.
Ah oui, à ce point. Alors, Thierry Chaise, votre sentiment.
Moi, je craignais ce côté pittoresque, en effet. Parce que ce que j'aimais beaucoup, en partie dans L'Apprenti et dans Tempête, qui sont des territoires qu'il maîtrisait sans doute mieux, et où il y a moins, justement, ce côté pittoresque. On ne part pas au Groenland. En tous les cas, je trouve qu'il
range. Je suis pas d'accord. Hein,
non, mais sur les pays.
Semble que Collardet, depuis le début, il filme des communautés, pas pour ces communautés, mais justement pour tous les autres à l'extérieur de ces communautés. C'est vrai pour L'Apprenti dans le monde paysan, c'est vrai pour le Tempête avec les pêcheurs, c'est vrai aujourd'hui pour les Inuits. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens.
Oui, mais c'est
pas pour eux, c'est avec eux qu'il fait des films.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ces deux. En tous les cas, dans L'Apprenti et dans Tempête, c'est des territoires qu'on a souvent vu filmer et qu'on connaît mieux.
Pas comme ça.
Et que là. Oui, non, et que là, comme on ne l'avait pas vu filmer du tout, il pouvait y avoir la tentation, d'un seul coup d'être envahi par ça. Et je trouve qu'il ne l'est pas. Moi, je craignais ça et je trouve qu'il ne l'est pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce personnage. On se dit au début, bon voilà, après le rendez-vous qu'il a, ça va être donc le gentil contre les grands méchants au-dessus de lui, qui va donc. Et on voit bien que ce n'est pas si simple, justement. Et que c'est toute cette manière de montrer qu'en effet, il veut bien faire, mais qu'en face, on le reçoit quand même. Pas comme le gars qui veut bien faire, mais on le reçoit durement. Et ce que j'aime bien dans le travail de Collardet, c'est qu'il prend le temps. Il prend le temps de faire les choses. Par moments, on peut y avoir en effet des coups de mou, des choses comme ça, mais il installe quelque chose. Il avance pas à grands coups de « il est comme ci, puis il est comme ça, puis il est de nouveau comme ci ». Et donc, on est avec ce personnage. Je trouve qu'il y a, chaque fois dans ses films, un mélange d'ambition et d'immense modestie par rapport à ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il arrive à s'effacer, et en effet... Tout ce que moi je pouvais craindre en disant oh, on va être écrasé par ces paysages-là, on va être écrasé par justement alors la description des petits métiers, des petites choses, eh bien il y a quelque chose chez lui qui fait qu'il observe vraiment, qui fait qu'il nous raconte vraiment. Alors peut-être que le film est en effet à destination d'un public occidental, donc vers nous.
Vous jouez des violons, Corinne Rondeau ?
Mais non, je pensais à la musique.
Mais moi, ça ne me gêne pas du tout, et je trouve en tous les cas que j'ai été accroché, j'ai préféré L'Apprenti et Tempête, mais malgré tout, ce film m'a gagné. Voilà.
Antoine Guillot, à présent, sur Une année polaire.
Alors, j'ai pas encore entendu ce que vous allez dire, Arnaud Laporte, mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait.
Sur le peu que j'ai dit.
Que voilà, c'est un film de Collardet, parce qu'on a exactement le même dispositif que, en tout cas, que L'Apprenti et que Tempête, parce que, comme à Lyon, il essayait de partir plus franchement sur la fiction, et d'ailleurs, il n'y arrivait pas de la même manière. Son projet, c'est toujours à la fois de filmer des communautés, des micro-sociétés reculées, c'est-à-dire à la marge. Alors, ça peut être une marge intérieure dans le Haut-Doubs, ça peut être
un bateau de pêche.
Ça peut être un bateau de pêche. Alors là, c'est encore plus reculé, en donnant au réel les moyens du grand cinéma, parce que c'est vraiment ce qu'il veut faire. Alors, parfois, effectivement, il va en faire peut-être un peu trop, surtout en plaquant une fiction qui est peut-être ce qui est un peu plus faible dans ce film, parce que c'est une fiction qu'on connaît déjà très bien. C'est le récit ultra classique de l'étranger qui arrive dans une communauté et qui va essayer de s'y intégrer, qui va pas réussir au début, et puis à la fin, ça marche. Et le grand schéma irénique du film, c'est vers la réconciliation, tout le monde peut s'entendre. Donc on n'est pas tellement surpris par ça. Mais il y a dedans des éclats de documentaires, pour le coup, qui sont très simples, parfois une partie de carte que je trouve formidable, une façon de filmer un visage d'enfant, une manière de traîner des bidons d'eau sur la glace pour entrer chez soi, et y compris alors le côté nature et découverte décrié par Corinne Ourdeau, que moi je trouve très beau, parce que j'ai le sentiment que c'est la première fois que je vois des séquences filmées avec un drone où ça marche. C'est tout le monde maintenant. C'est fini les hélicoptères pour filmer de haut. Maintenant, ce sont les drones. Et souvent, ça se voit la chose qui se trimballe un peu comme ça. Et il y a des travelling, par exemple, sur des traîneaux qui sont très beaux. Alors, la beauté, c'est qu'il a utilisé le drone, mais sans le faire voler, en le tenant à la main, simplement sur un motoneige, et ça donne un travelling d'une fluidité et d'une beauté en même temps, parce qu'on voit réellement des chiens de traîneau et quelqu'un qui est en train d'apprendre à en faire. Ce qui fait qu'on est malgré tout, moi, je suis très touché par ce film. Voilà. Ce qui est très curieux, c'est qu'il prend acte de l'âpreté qu'il y a à vivre là-bas, y compris des rapports sociaux, des problèmes d'alcoolisme qu'il y a, mais il ne veut pas les filmer. Il ne veut pas les filmer parce que ça a déjà été très filmé par ce regard colonial qui est dénoncé aussi dedans, c'est-à-dire le regard du Danois sur le Groenland, c'est des assistés, c'est des enfants qui ont des problèmes, c'est l'alcoolisme, etc. Lui, ce qu'il veut montrer, c'est la... C'est quelqu'un de gentil, en fait. Il filme avec gentillesse, mais c'est pas si souvent, et pas avec niaiserie, avec gentillesse. C'est-à-dire qu'il a envie de montrer ce qui marche, il a envie de montrer la relation possible entre des êtres, et finalement, c'est très touchant. Si on se laisse aller à ça, et si on se dit pas, ouais, mais il aurait pu creuser là un peu où ça fait mal. Mais il creuse pas là où ça fait mal, il caresse là où ça fait du bien. De temps en temps, ça fait du bien.
Bon, c'est vrai que je cherchais quel était le film la semaine dernière qui nous avait amené à nous interroger sur l'utilisation des drones. C'était Frontières d'Apolline Traoré, ça avait fait débat, cette utilisation-là. Bon, moi je trouve que si on a des moyens de faire des choses sans hélicoptère et sans grue folle, c'est quand même plutôt pratique, surtout au Groenland, j'imagine, pour les conditions de tournage. Moi j'aurais bien aimé, comme Corinne Rondeau, enfin je ne sais pas si je comprends ce que vous avez dit tout à l'heure, que ça commence directement à l'arrivée à Tinitklek, quelque chose comme ça, plutôt que d'avoir ce prologue, ce que j'aurais aimé en fait, une sorte d'outback, vous savez, ce merveilleux film de Ted Kotcheff où on a ce prof qui est dans
plus âpre, effectivement.
Où on est dans les déserts arides australiens où ça va être difficile de s'intégrer. Là, c'est un peu un outback dans la glace et avec dans le monde des gentils. Donc, effectivement, pour poursuivre ce que vous disiez, Antoine Guillot, la dimension gentille est un peu compliquée parce que c'est pas. C'est vrai qu'il y a des scènes un peu rudes d'adaptation, de découverte réciproque, et que le comédien, qui lui pour le coup est professionnel, hein, c'est bien ça, non? Le instituteur?
C'est le vrai
instituteur du village.
Je ne suis pas documenté, moi, alors.
Mais c'est écrit.
C'est celui qui remplace l'ancienne.
Il y a un carton à la fin, et c'est d'ailleurs, je me suis interrogé sur la volonté de dévoiler presque le processus de fabrication du film. Il y a un carton à la fin qui dit que l'instituteur en question est toujours en poste là-bas. Tous les personnages sont.
C'est mal.
Sont les vrais.
Ouais, enfin, on n'est pas obligé de croire les cartons. Hein,
non, mais en l'occurrence, il a le même nom.
Il n'y a pas de censure en Iran. C'est quand même une chose assez connue.
Il a le même nom que son personnage.
D'accord.
Et c'est
parce que moi, il me semblait l'avoir déjà vu. Donc,
non, mais il a une tête d'acteur danois. C'est troublant. Mais c'est pas lui.
Là, je vous laisse la responsabilité de ses propos un peu compliqués. Mais voilà, moi, il m'a semblé qu'il n'avait pas le même régime de jeu. Lui, c'est un instituteur danois et donc c'est autochtones. Et ça m'a un peu gêné. Je trouvais qu'il y avait du coup. Alors, il porte beaucoup plus la charge de fiction, forcément, j'imagine, dans les rapports avec le réalisateur. Et du coup, c'est moi, le faux dans le vrai et le vrai dans le faux, ça ne marche pas toujours aussi bien que dans les précédents films dont vous parliez, que ce soit L'Apprenti ou que ce soit Tempête.
Oui, je suis un peu d'accord. Ça vient sans doute de là, le fait qu'il y a quelque chose. Alors que les autres, il y avait une espèce de sensation de limpidité qui fait qu'on aimait. Et là, un peu moins. Mais je suis d'accord avec Antoine, c'est ce côté de vouloir essayer de filmer, en effet, le beau. Et voilà, ce côté... Non, mais ce qui peut très vite tomber quand c'est très mal fait, dans quelque chose d'insupportable. On se dit, bon, ok... En effet, on imagine que le quotidien Groenland, il y a aussi des affaires d'inceste, des choses comme ça. Et je trouve que son parti pris est assumé et qu'il l'assume. Une fois encore, je pense que c'est vraiment ce... Il y a une... Moi, c'est la modestie dans son travail. C'est quelque chose où on n'essaye pas de tout embrasser en 1h40, mais on prend un parti pris, on s'y tient. Et je trouve qu'il n'y a pas de faute de quart par rapport à ça.
Corinne Rondeau.
Non, mais son film, il le sauve parce que son obsession, c'est la transmission. C'est fiction documentée, transmission. Je veux dire, voilà, y en a, on peut accrocher fiction et histoire. Enfin, quand on se sert du document, quand on se sert du réel pour faire de la mise en scène, il y a toujours quelque chose qui vous tire vers, je dirais, une signature, une identité. Bon, là, ce réalisateur, il cherche la transmission. C'est depuis le début, il fait ça. Donc son film, il s'en sort comme ça. C'est pour ça que c'est gentil. On adore la transmission, surtout dans un pays ou dans une Europe où il n'y a plus de transmission. Donc c'est génial de se dire, il y a un gros Danois qui arrive avec sa grande baraque qu'il est, sa langue, et il va finir par parler la langue des Inuits, qui a en plus un dialecte. Et en plus, on a des drones qui nous font du Yann Arthus Bertrand. Oh donc, non. C'est de la séduque. Non, mais attendez, non. C'est de la séduque à mort. Moi, je ne peux pas supporter ça. La barque, les phoques, l'ours, on va à la chasse. Il a des petits, il ne faut pas les tuer. Alors, on repart, c'est beau.
Voilà un coup qui a porté.
Mais ils sont trop forts. Mais évidemment que je veux dire, quand on est dans des... Les chasseurs doivent faire ça. Évidemment, on ne va pas tuer une mère, enfin une... Une femelle avec ses marmots. Mais je veux dire, ça vient à ce moment-là. Ils vont à la chasse parce qu'il y a le rêve d'un petit garçon à Serres. La transmission se joue entre l'instituteur Anders et à Serres. Et donc tout le film s'oriente pour justement que ça s'agence entre ce petit garçon qui a perdu son grand-père, c'est-à-dire celui qui lui apprend à être un chasseur, et ce prof qui n'arrive pas à adapter la pédagogie danoise pour en fait se dire, mais je vais leur raconter grâce aux gens, aux adultes, ce qu'est leur traduction. Waouh ! Phénoménal, si vous voulez. Donc ce truc, c'est fiction, transmission, voilà, c'est, et ok, je veux dire, moi, il est tout à fait honnête avec son travail, mais moi, personnellement, c'est pour ça que je dis que c'est un film qui est retourné vers les Européens, vers leurs problèmes de transmission, vers leurs problèmes de filiation, puisqu'en fait, on voit bien que les petits garçons, les petites filles sont souvent chez leurs grands-pères, donc on saute une génération, que les grands-parents apportent toutes les formes traditionnelles, et que c'est comme ça qu'on évacue l'alcoolisme, les suicides de ces jeunes qui reviennent parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce que quand ils n'ont pas réussi au Danemark, qu'est-ce qu'ils ont en revenant ? Eh bien, ils n'ont pas pu être un chasseur, c'est ce qu'on nous explique avec le petit Acer, en lui disant, tu vois, normalement, il doit partir faire ses études ailleurs qu'au Groenland, et quand il va revenir, puisqu'il n'aura pas, c'est maintenant qu'il doit être un chasseur, et qu'est-ce qu'il va faire, le bon Anders ? Eh bien, il va partir avec les bons Inuits pour lui faire faire de la chasse. Donc, si vous voulez, c'est le côté bisounours, ok, je ne suis pas contre le fait qu'on nous caresse dans le sens du poil, et ne me regardez pas comme ça, Antoine, vous allez me broyer des yeux. Vous voyez, c'est la fin justement avec ces drones, ces plans, c'est alléluia quoi.
Antoine Guillot va se remettre de ses émotions.
C'est ça, c'est parce qu'il a pas été gentil, le film iranien.
Oui, ben c'est ça, mais je pense pas que le film mérite autant de violence dans le propos, parce que tout ce que vous dites, si vous le disiez,
c'est la dispute,
si vous le disiez calmement, ça pourrait être des qualités aussi.
Antoine, on va se tout à l'heure après l'émission.
Très sincèrement, une qualité du film, que le film soit destiné à un public occidental. Je vous l'accorde, mais que même économiquement, s'il était destiné aux 80 habitants de ce village, je pense que le film ne se ferait pas. C'est évidemment un film où Coulardet parle de ses propres problèmes avec son héritage familial, parce que lui-même n'a pas repris la ferme, et je pense qu'il ne s'en est jamais remis et porte toujours cette culpabilité-là. Résultat, les scènes où il l'exprime très directement ne sont pas les plus réussies du film. Je suis assez d'accord avec vous pour cette scène de ferme au début. Il y a des propos assez dialectiques par moment. Encore une fois, c'est certainement pas un très grand film, mais il y a des moments tellement beaux dedans et tellement, tellement touchants que...
Ça vous a fait du bien.
Moi, ça m'a fait du bien. Et de temps en temps, j'ai besoin qu'on me fasse du bien.
Moi, ce qui me touche, c'est quand le grand-père, il fait...
Son harnais avec...
C'est ce que je disais. C'est-à-dire, tout ce qui relève des gestes des Inuits est merveilleux. Mais au-delà de ça, ne m'intéresse pas.
Allez voir par vous-même Une année polaire de Samuel Collardet. Corinne Rondeau continue la discussion avec les gens qui sont installés à côté de nous dans ce bar du Bel Air. Le film est sorti mercredi dernier.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Oui, le troisième sujet au sommaire de cette dispute cinéma, c'est une exposition, Chris Marker, Les sept vies d'un cinéaste à la Cinémathèque française à Paris. C'est son œuvre la plus connue, sans cesse citée en référence, reste La Jetée. La vie et l'œuvre du cinéaste ne sauraient évidemment s'y limiter. Il a couru, parcouru la planète en tous sens, de la Californie au Japon, Islande, Corée, Israël, Chine, Mexico, La Havane, bref. Témoin, acteur aussi, de pas mal des grandes luttes de la seconde moitié du XXe siècle. Il était aussi un homme facétieux, qui se cachait derrière l'image d'un chat, on en reparlera. Et à sa mort en 2012, Chris Marker a laissé un trésor d'archives, aujourd'hui pour partie exploité à la Cinémathèque française, qui programme également une intégrale de ses films, vidéo, programme télévisé, et puis d'autres films autour. C'est Christine Van Hache qui est la commissaire générale de cette exposition. Raymond Bellour et Jean-Michel Frodon en sont les commissaires associés.
Ceci est l'histoire d'un homme,
mémoire des lieux,
entre l'aridité et la tendresse,
et un visage de femme.
Une salle de projection dans la grande maison d'Auteuil, département de l'Eure. Des bobines, des cassettes, des photos, des placards. Ce que l'on vous propose ici, ce n'est pas la vie de Simone, elle l'a raconté mieux que personne dans La Nostalgie. Ce n'est pas sa carrière, d'excellentes émissions de télévision ayant pourvu. C'est le contenu d'un placard. Des petits bouts de mémoire en vrac, un voyage à travers les images qu'elle gardait.
Cet air léger se vide au-dessous de moi. Ce sont les stratifications qu'ont bien accumulées de l'esprit, du raisonnement, du goût. Tous les accidents du travail sont ici des accidents de la pensée. Il y a plus de chance qu'ailleurs pour que les dos courbés, les rides de ces bourgeois, de ces artisans, aient été gagnés à la lecture, à l'impression, à la relure de Descartes et de Pascal.
Paris est cette ville où l'on voudrait arriver sans mémoire, où l'on voudrait revenir après un très long temps pour savoir si les serrures s'ouvrent toujours aux mêmes clés, s'il y a toujours ici le même dosage entre la lumière et la brume, entre l'aridité et la tendresse, s'il y a toujours une chouette qui chante au crépuscule, un chat qui vit dans une île.
À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice.
Voilà, après ce montage dans l'œuvre de Chris Marker, on parle de cette exposition et c'est Thierry Chaise, logiquement, qui débute.
Oui, mais alors moi j'ai... Je ne connaissais pas aussi précisément Chris Marker dans toute son œuvre et tout. Il y a d'abord un vague.
Voilà. Qui connaît tout de Chris Marker ?
C'est un vagabondage, c'est une balade géniale. Je trouve vraiment, on est. Alors, c'est un voyage à la fois historique avec un grand H et puis avec tout plein de détails. C'est vraiment une expo dans laquelle on prend plaisir à rester des heures, presque des heures, je trouve, à guetter la petite chose. Un, parce qu'il a observé en effet et de manière active toutes ces révolutions à travers le monde, et que donc ce sont des documents de l'époque. Deux, parce qu'il n'a jamais, jusqu'à sa disparition, été celui qui racontait que c'était forcément mieux avant et qui était là de manière très docte à dire sa vérité, mais qui a continué jusqu'au bout à montrer des choses, qui a montré de plus en plus de facéties, qui a été jusqu'à se créer une île sur Second Life. Donc il est dans la technologie, c'est-à-dire qu'il n'est pas enfermé dans une époque où... Voilà, ça aurait pu être la statue du commandeur qu'on va consulter. Non, il a
non,
toujours...
Il était toujours à l'affût de la nouvelle technologie. Hein.
Et on voit, voilà...
Bon, les CD-ROM aujourd'hui, non, qui se souvient des CD-ROM ?
Il y a quelque chose... Ça, vraiment, je ne connaissais pas des sujets autour de l'élection d'Obama qui va arriver. Et donc, tout ça est revigorant. Et puis, on se balade aussi, donc, à travers plein de documents, des photos, des images. On revoit des extraits... du Jolimet, par exemple, avec ces gens interviewés dans la rue, et on se dit, mais c'est incroyable, parce que le micro tendu et les réponses données sont les mêmes que celles qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Il y a juste la manière de parler qui est un peu différente, le vocabulaire. Et c'est, au milieu de tout ça, on est aussi, on peut voir entièrement La Jetée s'installer. Ça fait une pause parfaite, et se dire, quelle beauté, en effet. Et on comprend pourquoi des cinéastes comme Terry Gilliam, Norman Lussinger et tant d'autres s'en sont inspirés. Moi, c'est ça. J'ai trouvé qu'il y avait une variété absolument incroyable. Et cette expo rendait grâce à ça. Sans que ce soit appesanti, sans pareil, de la même manière, elle respecte le côté passeur, en tous les cas, passeur impliqué. Et je me suis régalé de bout en bout, voilà, de cette exposition.
Antoine Guillot va nous parler de l'exposition Chris Marker à présent.
Alors, c'est une exposition qui est effectivement passionnante, qui se sent un peu à l'étroit et qui en même temps se ménage des espaces où on peut se poser. Ce qui est très beau dans cette exposition, c'est qu'il y a des films qu'on peut voir entièrement. C'est pas souvent le cas. On peut voir au moins 4 films, si je me souviens bien. Les Statues
Meurtres aussi, co-réalisé avec Anna René.
Voilà, La Jetée, Le Fond de l'air est rouge, il faut quand même prévoir 3h30, et Sans Soleil. C'est-à-dire que c'est une exposition où on peut revenir, où on peut passer du temps et qui le mérite parce qu'il y a tellement de choses à voir en même temps qu'on ne sait plus trop où donner de la tête à un moment. Ce qui est très étrange avec cette exposition, c'est qu'elle se fait un peu contre Chris Marker, parce que Chris Marker, d'une part, voulait, par exemple, plus qu'on voit ses films avant 62, c'est-à-dire avant le moment où il réalise en même temps La Jetée et Le Jolimet, deux films complètement différents, mais il tourne Le Jolimet pendant la semaine et le week-end il fait La Jetée, c'est quand même déjà assez fou. Et puis aussi parce que Chris Marker a beaucoup réinventé sa vie. Chris Marker, on le sait, c'est un pseudonyme, il a eu nombre de pseudonymes derrière, et le grand souci très manifeste des commissaires de l'exposition, ça a été à la fois de nous apprendre des choses sur Chris Marker, mais de pas trop en dire pour préserver le mystère et le mythe. Par exemple, on voit des photos de Chris Marker. Or, le visage même de Chris Marker était un grand mystère. Il a tout fait pour faire disparaître les quelques photos de lui qu'il y avait. Il ne se montrait nulle part, il ne donnait aucune interview. Et quand il y apparaissait, c'était sur Second Life, sous un autre avatar qui était Sergei Mourazaki, ou représenté par son chat Guillaume en Égypte. Donc, il faut quand même montrer l'image de Chris Marker parce qu'on est venu là pour ça, mais on le montre pas trop. Et on va entretenir le mythe, y compris avec cet hypothétique oncle, le fameux Krasna, dont il va reprendre le nom sous des pseudonymes dans plusieurs de ses films. Or, à la fois, on apprend beaucoup de choses sur lui, mais on reste dans ce grand mystère. Et ce qui me semble que le grand fil directeur de cette exposition, c'est de montrer que de tout ce qu'a été Chris Marker, puisque ça s'appelle les 7 villes Chris Marker, mais ça aurait pu être les 14, à la fois le bricoleur, le vidéaste, l'écrivain, l'éditeur, le photographe et tout ça, c'est le monteur. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours pratiqué en monteur. Juste derrière la salle consacrée aux statues meurtres aussi, et à la projection du film, on voit ce qui a été retrouvé dans les archives, ce sont des carnets, des albums de cartes postales, par exemple, ou des albums de collage. Et on voit qu'il a une démarche qui est très inspirée du musée imaginaire de Malraux. Il va tout penser comme ça, et on le retrouvera même, cette démarche, dans le générique du Fond de l'air est rouge, tel qu'il est montré. C'est un montage par analogie de forme, et qui produit toujours du sens. Le début du Fond de l'air est rouge, il va monter les escaliers d'Odessa, filmés par Eisenhower, avec des images, avec les 10 ans de lutte qu'il va raconter, et ça marche formidablement parce que ça résonne et ça produit du sens. Et quand il sera éditeur au Seuil pour l'édition, pour la collection Petite Planète, il va penser de la même manière. Tous les livres qu'il va publier sont des livres de monteur, et on peut voir tout ce parcours comme ça. Voilà, c'est un des axes dans lequel on peut rentrer dans cette exposition, mais il y en a évidemment 1000 autres.
Alors, quel axe pour Corinne Rondeau, et quel regard surtout sur l'exposition Chris Marker à la Cinémathèque française?
Mais écoutez, beaucoup moins positif que mes camarades. J'ai trouvé cette exposition. Enfin, je n'ai pas retrouvé Chris Marker.
Mais personne ne l'a jamais trouvé en même
non,
temps.
Non, mais c'est justement parce que l'exposition. Antoine, très généreusement, veut. Alors, je vais m'énerver encore, Antoine. Hein, mais très généreusement, mais non, mais c'est pas vous. Montrer quelqu'un qui a voulu échapper. Pour moi, c'est Blanchot au cinéma. C'est-à-dire celui qui a disparu pour justement ne rentrer que dans un infini des images. La circulation aussi des images. Je veux dire, c'est pas les 7 vies de Chris Marker, cette exposition. Parce que quand on le voit, il a été partout. C'est pas 7 vies qu'il a eu. C'est beaucoup plus. Vous dites vagabondage encore généreusement, mais c'est quand même un peu le fourre-tout. C'est-à-dire, quelqu'un qui connaît pas Chris Marker, je pense qu'il ne sent sort pas. Et il ne va pas être marqué, parce que le cinéma de Chris Marker, moi, c'est une des rencontres les plus importantes de ma vie, où j'avais une vingtaine d'années avec La Jetée. Je l'ai regardé pendant 10 ans à raison de 3 fois par an, en pleurant 3 fois par an en regardant La Jetée pendant 10 ans. De la même manière que Salò de Pasolini, c'est les deux films qui m'ont marqué pour la vingtaine, on va dire. Et donc moi, c'est l'homme de la mémoire, c'est celui qui a créé à partir de documents, il a créé une fiction mémoire. Je veux dire, où est la mémoire dans cette expo? Je ne la trouve pas. On arrive avec la Second Life, c'est-à-dire ce qui arrive à la fin de la vie de Chris Marker. Donc, les gens qui ne connaissent pas, ils vont se dire, qu'est-ce que c'est que ce chat, machin? Alors, on a un peu des... Ensuite, on a le poème de T.S. Eliot, Les Hommes Creux, pour dire justement, c'est Holoman, l'homme creux, l'homme qui disparaît, les fantômes, c'est sur la guerre, la Première Guerre mondiale. Le poème est très difficile. Si vous ne connaissez rien à Chris Marker, c'est même pas la peine. Ouais. Ensuite, vous allez avoir les vitrines fétichistes d'objets. Bon, tout ça est très sympathique, je veux dire. Mais moi, personnellement, j'ai été extrêmement déçue. Déçue parce qu'il y a des choses qui sont tellement fortes dans le cinéma de Chris Marker. C'est-à-dire comment on produit de la mémoire, comment justement il a sens... Vous l'avez, Si j'avais quatre dromadaires, vous l'avez dans Sans soleil qui est diffusé dans l'intégralité, dans La jetée, mais dans nombre de choses, il y a toujours cette idée de créer une zone. Et cette zone... comme dans La jetée, par exemple, parce que c'est le film qui est le plus connu, où on montre le doigt ailleurs de la tranche de séquoia, vous savez, dans ce qui reprend Hitchcock, hein, dans Vertigo. Et donc, le doigt est au-delà, c'est-à-dire hors du temps, à l'extérieur du temps. Et Chris Marker a inventé, il a fabriqué une fiction de la mémoire en allant au-delà, je dirais, de sa propre mémoire à lui. C'est pour ça qu'il est au monde. Il est parti au monde, à toutes les révolutions. Il est de toutes les révolutions. Historiquement, Medvedkin, c'est lui qui redécouvre le bonheur. Il va faire le tombeau de Alexander Medvedkin. Enfin, ce sont des choses qui sont tellement... un, l'histoire du cinéma. Deux, l'histoire de l'utopie communiste de la Révolution. Trois, je veux dire, chercher le temps, puisqu'il dit le problème aujourd'hui, c'est plus la question de l'espace, l'interrogation principale, c'est celle du temps. Donc, le travail de la temporalité, ça revient tout le temps sur le cinéma russe, sur ce que c'est que d'être russe, par exemple, dans Si j'avais trois dromadaires, qui pour moi aurait dû être un film de 42 minutes, ça aurait été un film pédagogiquement génial pour l'exposition. C'est un photographe amateur et deux personnages qui commandent des photos que ce photographe amateur a fait partout dans le monde. Et il parle de l'image, il dit le monde, il y a le monde et puis il y a le double. Et le double, c'est la photographie. Et qu'est-ce que c'est que l'image? Il ne faut pas croire à l'image parce que le souvenir qu'on a, ce n'est que le souvenir de l'image. Et c'est là qu'on a la construction de la mémoire. Donc c'est un cinéaste, et ce n'est pas qu'un cinéaste, c'est un écrivain, c'est un homme de la correspondance, le nombre de films où il y a de la voix off, et ce sont des lettres, par exemple Sans soleil, il m'a écrit, etc. etc. Et on voit bien que l'idée de la correspondance ou de l'échange, c'est du temps déjà. Et donc c'est extraordinaire que cette exposition veut nous donner tout, sauf qu'en fait, on ne voit pas la cohérence de la mémoire qui est en jeu dans tout son travail. Et il aurait fallu... Enfin, je ne sais pas moi qui fais les expos en même temps. Bon, moi qui aime... Non, mais en plus, c'est un anti-godardien, quoi. Godard, c'est un homme de l'analogique. Lui, c'est vraiment l'homme du digital. Il invente des trucs. Enfin, même si c'est un peu ringard aujourd'hui, mais il est toujours en avant. Il veut inventer des images. Voilà, il milite pour un monde d'images.
Alors, je vais dire deux mots, trois peut-être. Non, mais parce que je n'allais pas vous interrompre. Moi, je pense qu'il est irréductible au format de l'exposition. Il est irréductible à beaucoup de choses, Chris Marker. Et je pense que le grand problème pour moi, c'est d'avoir fait... des fétiches avec du vivant, parce que je pense que effectivement les archives de Chris Marker, on dit archives aujourd'hui, pour moi c'était des boîtes à créer, des boîtes à création, des boîtes à vivant, et que c'est quelqu'un qui a été toujours extrêmement au présent, et même si donc le CD-ROM aujourd'hui ça fait ringard, sauf que quand ils en servaient c'était à la pointe de la technologie, que s'affiche quelque chose. Bien sûr, la mort arrête ça, mais moi j'ai une certaine forme de tristesse par rapport à ça, parce que c'est une machine de vie, Chris Marker, et que là forcément on est dans de la mort. Vous voulez dire un tout dernier mot?
Juste, vous avez raison, Arnaud, parce qu'en fait ce que je cherchais, c'était le contemporain, ce qu'il y a de contemporain, et il n'y a que du contemporain chez Chris Marker.
Ben oui. Et donc forcément,
et cette expo,
on ne peut pas faire du contemporain avec quelqu'un qui est mort. Enfin bon, il y a quelque chose d'irréductible.
Oui, mais en même temps, ils n'ont fait ni un tombeau, ni quelque chose de contemporain.
Ah voilà, on a entendu différentes choses. Pas d'autres prises de parole, messieurs, car il est 19h57. L'exposition Chris Marker, Les Sept Vies d'un cinéaste, elle est à voir jusqu'au 29 juillet à la Cinémathèque française, qui a édité pour l'occasion un catalogue. Et Et Camille André, qui a fini de live-tweeter les envolées de Corinne Rondeau et de ses camarades, nous rejoint pour le jeu de la dispute. On rappelle le jeu d'hier soir, sa question et donner sa réponse.
Oui, alors on se demandait hier quel ouvrage de Batia Sutter contient uniquement des images extraites d'autres livres collectés par l'artiste elle-même. Et il s'agit de Parallèle Encyclopédia.
Ce soir, des invitations à gagner pour les expositions du Musée d'art moderne et contemporain de Septième Métropole qui fête ses 30 ans, une expo Valérie Jouve, une expo Jean-Michel Autoniel jusqu'au 16 septembre. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, quel est le titre du premier film documentaire réalisé par Valérie Jouve en 2003 ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales, envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sur le site franceculture.fr à la page de la dispute. Il faut que je m'abonne au podcast pour écouter ce que je n'ai pas entendu tout à l'heure de ce qu'a dit Corinne Rondeau. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute consacrée à la danse. Nous serons avec Manu Farine, Florian Guettet et Philippe Noisette pour parler de quatre chorégraphes d'aujourd'hui à l'Opéra de Paris. C'est un programme Thierry Chester, Perez, Pite. On parlera de Lisbeth Grevetz, See Within et Paula Pi Alexandre au Festival Montpellier Danse.